Il est 19h01 et vous avez bien raison d'écouter Campus. Tout de suite, vous embarquez à bord du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin et nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos méninges. Au programme ce soir, on décrypte le nouveau Angers Mag, 32e numéro. Pour cela, Yves Boiteau est avec nous dans le studio. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Ah, un petit problème de micro. Bonsoir Yves.
Bonsoir Pierre-Louis.
On parlera de sport, de médias, de politique et de café et concerts avec vous. Hugo, lui, s'est intéressé au sport, mais à sa manière, hein, toujours avec son regard décalé par rapport à l'équipe ou RMC, par exemple. Pour ne pas les citer, il nous fera découvrir les coulisses de ce que vous voyez sur votre poste de télé. Antoine revient cette semaine avec un nouveau cabinet des curiosités, mais comme d'habitude, on commence par un reportage.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Un reportage encore et toujours signé Thibaut, notre reporter de choc, s'est intéressé aux musiques actuelles et notamment à ceux qui s'occupent de faire bouger les choses.
Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire a rassemblé ses adhérents au Shabada afin de revenir sur les tenants et aboutissants de ce projet collectif. L'occasion était belle pour Campus d'aller y traîner ses micros afin de rencontrer ceux qui font vivre la musique dans la région, à l'instar de Vianney Marzin, le directeur du pôle.
Le pôle est une association, donc y adhère n'importe quelle structure qui agit dans le champ de la musique en Pays de la Loire. Donc actuellement, on a près de 120 structures adhérentes qui sont sur tous les départements et sur tous les aspects, toutes les activités menées dans le champ de la musique, que ce soit de la création, de l'enseignement, des écoles de musique par exemple, ou des studios de répétition, mais aussi des festivals, des salles de concert, des cafés et des producteurs d'artistes, des labels, des développeurs. Toute la filière est réunie au sein du pôle. Alors le but du pôle, c'est de défendre la diversité des initiatives dans le champ de la musique en Pays de la Loire et d'essayer de construire avec les collectivités, les politiques publiques, les conditions propices au développement de la filière musicale d'un point de vue à la fois économique, mais aussi d'un point de vue sociétal, avec des enjeux de développement durable, des enjeux artistiques et culturels, des enjeux de santé, des enjeux de jeunesse, etc. etc. Bah, le pôle a presque 10 ans, donc il est maintenant fort d'expériences concrètes qui ont été réalisées, comme la mise en place d'un dispositif d'aide à l'intention des développeurs d'artistes, donc des labels, des tourneurs. Un dispositif d'aide aussi au Café Culture, qui est devenu un dispositif national. On a aussi un fonds qui va chercher du mécénat auprès des entreprises, donc c'est des axes qui sont liés à l'économie de la filière. Et puis, par ailleurs, on développe des actions avec l'Agence régionale de santé sur les risques auditifs ou les risques en milieu festif. On a comme ça un certain nombre d'activités qui mobilisent l'ensemble de nos acteurs, de nos adhérents et de la filière.
Damien, Titouan et Benoît font partie du collectif Icracoa, basé à Montaigu. Ils sont également présents au sein du pôle depuis sa fondation.
On est un collectif de 23 associations, essentiellement basées sur les musiques actuelles. Alors il y a des assos qui font de la programmation, d'autres qui gèrent un local de répète, d'autres qui font de la diffusion. L'histoire veut qu'on soit dans la base de la création du pôle. On a toujours, nous, on a cette envie de mutualiser et d'échanger. On est né comme ça. Et donc ça nous paraît super important de le faire sur notre échelle territoriale et sur l'échelle régionale aussi. C'est une structure qui est maintenant bien implantée, on l'a vu, sur le territoire régional puis national. Je trouve qu'elle a de la cohérence, mais il faut quand même qu'on arrive, nous, en tant qu'adhérents, qu'on soit acteurs de ce truc-là. Qu'on soit pas... Parce qu'on peut, c'est des structures qui montent assez vite et assez haut. Et à un moment, avec nous, en train de faire des petits concerts à côté, sur de la... sur de la pratique amateur, on peut décrocher, quoi. Donc faut garder cette corde et puis on tient un coup dessus des fois pour les faire redescendre.
Ça pourrait un peu se comparer avec l'espèce d'échelon politique, donc le temps politique et le temps citoyen. C'est-à-dire que c'est pas sur les mêmes vitesses. Et là, ce serait un peu un élément de comparaison qui pourrait ressembler entre les deux.
Après, c'est ce qui est bien, c'est que c'est une filière. Donc il y a des étages, il y a pas l'ascenseur, il n'est pas en panne, quoi. À partir du moment qu'il y a c'est transversal, ça va dans un sens puis dans l'autre, ça le fait, quoi. Mais c'est à nous de faire en sorte que ça soit comme ça.
Simon Adger, membre du conseil d'administration du pôle, est également développeur d'artistes au sein de l'association Pipo Productions, ce qui lui a permis de voir les évolutions qui influent sur la filière musicale ainsi que l'intérêt que présente une structure telle que le pôle.
Moi, je suis arrivé, je pense, à une période où les évolutions avaient déjà fait beaucoup de dégâts, notamment tout ce qui est le développement de l'économie du web. Et quand même, en France, on est héritier d'une vision de politique publique en matière culturelle qui date de l'État-providence des années 80, qui ont imprégné le milieu culturel, le milieu de la création. Personnellement, moi, je suis arrivé, j'ai cette activité en tant que musicien à la base. Il y a 5 ans, j'ai découvert le milieu de la production. Du coup, ce que moi, j'ai appelé la culture de couloir pendant un moment. Et finalement, aujourd'hui, maintenant, je suis un professionnel de cette même culture de couloir dont je fais partie et qui sont en fait tous les acteurs de l'ombre, en fait, du spectacle vivant et du coup des musiques actuelles. Les mutations, du coup, je pense qu'en même temps qu'on en est les acteurs, on les subit. Je pense qu'on est à une période où il y a des choses qui s'inventent et du coup, il y a des nouveaux modèles qui prennent une force parce qu'ils sont viables actuellement. Il y en a d'autres qui ne le sont pas pour le moment, mais qui certainement vont l'être à l'avenir. Mais du coup, je pense que chaque modèle économique, on a une période où on essaye des modèles et finalement, ceux qui vont rester vont être ceux qui répondront le mieux finalement à un état actuel de la situation économique en matière artistique. De toute façon, la société civile a souvent 10 ou 20 ans d'avance par rapport aux politiques. Et c'est vrai qu'au niveau politique, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, j'ai eu l'impression qu'on se posait des questions encore au niveau politique, où on avait déjà trouvé les réponses dans la société civile. Donc effectivement, je trouve que cette structure est intéressante en tant que lien, interface, et reconnue légitimement par les institutions publiques pour finalement faire valoir auprès des institutions publiques les initiatives de la société civile et finalement même les réponses de la société civile aux mutations économiques et aux nouvelles problématiques qu'on peut avoir.
Un rôle d'interface qui permet donc à de petites structures d'accéder à une certaine reconnaissance face à l'hégémonie des salles et des festivals les plus importants.
Yves Boiteau, ça vous fait réagir, ça vous parle comme sujet? C'est le type de sujet que vous auriez pu traiter avec Angémat, par exemple?
Oui, mais à la fois, je me faisais deux réflexions en écoutant le reportage. C'est que bien sûr que ça me parle, mais je ne sais pas si ça parle bien à quelqu'un qui écoute des musiques actuelles ou écoute un album, parce qu'on est sur un langage qui est assez qui reste malgré tout assez techno et administratif. Donc il y a des politiques, pour comprendre qu'il y a des politiques territoriales qui existent sur les Pays de la Loire pour soutenir la diffusion des musiques actuelles, donc ça c'est très bien, mais faut pas parler que de ça, sinon je pense qu'on peut c'est bien de le savoir, mais faut pas parler que de ça, sinon j'ai peur qu'on perde un peu des gens en route. Et puis par contre, ce qui est bien dans ce reportage, c'est ça montre la diversité de ces structures qui diffusent des musiques actuelles. Et ce que j'ai entendu dans le dernier propos, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se reposer que sur les structures qui sont financées par les collectivités, qu'on le soutien de la collectivité, mais qu'il y a des initiatives qui existent, et c'est vrai à Angers, vous le savez très bien, qui n'ont besoin de personne pour émerger sur le web ou sur des modèles de petites entreprises ou associatifs qui fonctionnent très bien. La question pour ces structures-là qui vivent, c'est pas de se lancer, c'est plutôt de se pérenniser dans le temps. Et c'est là où il y a un enjeu qui est extrêmement fort pour soutenir ces petites structures. Moi, la structure qui me vient en tête, c'est Wild Valley, c'est ce label qui s'est constitué autour de beaucoup de groupes de musique actuelle sur Angers. Voilà, ils essaient de se prendre par la main pour ne dépendre de personne et dessiner leur avenir, quoi.
Le sous-marin spécial Angers Mag, 32e numéro, revient dans 3 minutes, juste après Los Porcos et la chanson Waterfall.
Thank you.
Vous êtes toujours sur campus et vous êtes bien dans le sous-marin. Nous sommes toujours en compagnie d'Yves Boiteau, avec qui nous allons passer en revue 4 des sujets du dernier Angémag, 32e numéro. Nous allons forcément parler de la probable apparition d'Angesco Télé, du dossier spécial régional, des cafés-concerts qui montent le son, hein, comme l'indique le titre de l'article. Mais commençons tout de suite par votre une. Vous avez décidé de se faire rencontrer deux coachs de deux équipes qui squattent le haut du tableau en première division. Je parle bien sûr du SCO avec Stéphane Moulin et de l'UFAB, le basket féminin, avec David Girardière. La première question que l'on se pose, Yves Boiteau, c'est pourquoi en avoir fait votre une alors que vous avez un excellent dossier, il faut le dire, spécial sur les régionales. Est-ce que le sport, c'est vraiment beaucoup plus vendeur, entre guillemets, hein, puisque vous êtes un gratuit, que la politique?
C'est marrant parce qu'on s'est reposé la question ce matin en arrivant à la rédaction après notre week-end. Et on doit le reconnaître, il y a un côté un petit peu opportuniste dans le choix de la une. Donc voilà, moi je l'assume comme ça. Et le raisonnement est le suivant, c'est de se dire, je préfère faire une une avec Stéphane Moulin et David Girandière, les entraîneurs de clubs identifiés et populaires, en espérant que les gens qui ouvriront le journal iront voir le dossier régional, que de faire la une sur les élections régionales et d'être sûr qu'ils ne prendront pas le magazine. Voilà, c'est ma réponse un peu caricaturale pour justifier ce choix-là.
Parce que les gens, aujourd'hui, se désintéressent complètement de la politique ou c'est juste pas accrocheur
Mais je pense que c'est très compliqué de les amener à la politique. C'est pas impossible hein, parce que ce serait se résigner, donc ce n'est pas impossible, on le fait le dossier, c'est pas comme si il y a quand même 11 des 48 pages puisqu'il y en a 8 de plus sur ce numéro là qui sont consacrés au régional, donc c'est qu'on y croit aussi. En revanche, il y a une crainte forcément avec une de faire fuir peut-être le lecteur si le titre est un peu trop institutionnel. Est-ce que si on titre sur les élections régionales, ça va vraiment accrocher le jeune lectorat, notamment celui qu'on souhaite attirer à nous? C'est pas le seul. Voilà, donc c'est un choix qui est tout à fait discutable, on est prêt à en discuter, mais il est assumé comme tel.
Très bien, Thibaut.
Alors pourquoi avoir choisi spécifiquement ces deux coachs-là? Est-ce que c'est une question de parité avec une équipe masculine et une équipe féminine?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un mélange de d'objectivité puis de subjectivité, cette histoire-là. Le SCO, parce que ça ne se discute pas. Actuellement, on parle beaucoup de lui. On n'avait jamais rencontré Stéphane Moulin ni fait son portrait. Donc on avait envie d'eux. Et à la fois, on n'avait pas envie que ce soit que lui parce qu'on ne veut pas tomber non plus dans la vampirisation par le SCO de toute l'actualité. Et le faire se confronter, les points de vue, les réflexions de Stéphane Moulin à un autre entraîneur, bah, de toute façon, comme vous voulez qu'il y en ait deux, c'était quoi? C'était soit ça, soit le hockey sur glace. Hein. Ça aurait pu être aussi la vaillante danger en tennis de table, mais après, on vise plutôt le côté populaire. Le basket reste malgré tout le deuxième sport collectif le plus populaire. Donc ça a été le choix de l'UFAB.
Hugo.
Mais moi, j'avais vraiment une question. C'est pourquoi est-ce qu'un journal comme le vôtre, qui n'a pas pour objectif de traiter exclusivement des questions sportives, fait des unes comme celle-ci? Alors qu'on est plus sur un journal qui est là pour qui est informatif, qui est justement politique, économique, sur les sujets de société, pourquoi est-ce qu'on va parler du SCO et du sport en ce moment?
Est-ce que vous avez lu l'entretien?
L'entretien, oui.
Vous l'avez lu?
Avec Stéphane Moulin et
Oui. Eh ben, moi, la réponse, elle est dans l'entretien lui-même. C'est qu'on n'est pas sur un entretien qui nous parle de compétition, quasiment pas du tout. On a fait l'idée, c'était d'aller voir aussi la patte humaine derrière chez ces hommes-là et ces clubs-là qu'on a tendance à réduire à la seule compétition et le seul niveau national compétitif, c'est ça, de leur club. On voulait voir ce qu'ils avaient derrière la caboche pour savoir un peu quelles étaient encore quelles étaient toujours leurs passions, leurs convictions aussi, avec cette idée que si on ne fait pas ça, on va être effectivement sur une couverture qui est liée à la compétition résultat, qui pour le coup, c'est vrai, nous intéresse très peu. On est content que le SCO, ça marche bien. Ce qui nous intéresse plus en GMAG, c'est de savoir quelle est l'implication du SCO dans la vie territoriale, par exemple. Quelle est l'approche du sport? Est-ce qu'on est sur une approche complètement traditionnelle de la compétition? Voilà, c'était plus d'aller chercher ça. Et ce que je trouve, on réussit à faire en les interviewant, ça fait ressortir quand même les convictions de base de ces deux entraîneurs qui ont démarré à des niveaux complètement amateurs à la base. Hein. Ils ont tous démarré au bas niveau et qui sont rendus aujourd'hui à un niveau où on pourrait vite avoir le melon. Voilà, c'était ça, c'était d'aller chercher ça. Après, je dis, oui, il y a un côté un peu opportuniste de notre part à utiliser un sujet, le SCO, qui forcément attire, j'allais dire attire le chaland, c'est pas le bon mot, mais attire les lecteurs, c'est ce que l'on pense, quoi. Mmh. Voilà.
Antoine ?
J'avais toujours une question, entre guillemets, par rapport au sport. Vous avez parlé il y a quelques secondes d'un axe populaire, de quelque chose de populaire qu'est le sport. Est-ce que dans un média gratuit comme vous, qui ne paraît pas des fréquences hebdomadaires, est-ce que le sport c'est un marronnier populaire ou c'est uniquement le seul sur lequel on peut s'appuyer pour que ça marche ?
Non, non,
c'est pas... Là, je pense aussi, vous l'avez devant vous, le canal de télé qui est passé sous les mains du SCO. On a parlé des élections régionales qui aussi, c'est aussi la faute des médias si c'est pas assez popularisé et pas assez familier dans l'esprit des gens. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue en mettant le sport en avant et pas la politique ? Parce que si tout le monde fait comme ça ?
Non mais attendez, faut juger les choix d'Angers Mag sur les 32 numéros que l'on a fait. Et je vous reparlerai, je ne sais pas moi, d'un dossier qu'on a fait sur la réforme territoriale à un moment donné où personne n'en parlait. Mm-hmm. Personne n'aurait osé faire ce dossier où on essayait d'expliquer par A plus B ce qu'il y a derrière la loi NOTRe, quel sera l'avenir des communes, quelque chose d'extrêmement technique. Je vous donnerai un autre exemple sur l'évolution intercommunale aussi de l'agglomération d'Angers, sujet qui n'intéresse personne alors que c'est le devenir de nos communes territoire qui est derrière. Donc après, c'est des questions de choix. Nous, on a 10 numéros dans l'année, on le sait. 10 numéros, c'est très peu. Mmh. Et on essaie de trouver un équilibre entre des sujets, entre des unes qui soient, j'ai envie de dire, un petit peu risquées en termes de lectorat et d'autres qui le sont un peu moins. Mmh. Donc, j'entends votre propos et c'est très bien parce que ça veut dire aussi qu'on attend dans GMAG autre chose que ce que font les autres. Donc, ça, c'est très bien. Je suis content de l'entendre.
Comme une plus-value, voilà. Exactement.
Comme une plus-value. Maintenant, on a fait ce choix et on l'assume en pensant que c'était aussi intéressant. Après, cet opportunisme là a tout à fait le droit d'être critiqué, mais le magazine ne se résume pas qu'à cette une là. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi.
Alors, en tant que lecteur, hein, quand on lit cet exercice de questions-réponses, on sent une certaine fierté en fait chez les deux hommes d'être du coin et une véritable importance des valeurs humaines qu'on n'a pas toujours hein, quand on lit des interviews de sportifs. C'est ce que vous avez ressenti vous aussi en faisant l'entretien, parce que vous avez participé à l'entretien.
Oui, mais parce qu'aussi on a axé nos questions sur ces points de vue-là. On n'a pas été parlé de l'éventuel transfert de Bidule Chouette au Mercato, etc., ce qui ne nous intéressait pas. Moi, je pense que là où le SCO a un rôle important, Angers SCO a un rôle important alors qu'il démarre sa carrière en Ligue 1, c'est puisqu'il a fait valoir des valeurs liées au sport, à un respect des hommes, etc. Moi, j'attends de voir s'il les tiendra dans le temps. Je suis un joueur de foot qui a été complètement dégoûté par le foot business. Krishna et j'en passe, c'est des meilleurs. Et moi, j'attends de ce club-là qu'il résiste. On verra bien avec cette idée que c'est l'avant-dernier budget de Ligue 1, qu'il a des convictions, qu'il ait un lien avec le football amateur. J'attends à ce qu'il défende ces valeurs-là au niveau national et dans les médias. On verra quelle sera l'évolution. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'entraîneur Stéphane Moulin, je trouve, je le dis sans flagornerie ou quoi que ce soit, parce que je suis capable de dire du mal d'autres personnes, que lui, il a un discours qui me semble à échelle humaine encore. Et je trouve que ça fait du bien quand on a le PSG qui a un budget de je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros. Voilà, donc nous, c'est ça qu'on avait envie d'aller chercher. Est-ce que c'était le bon moment pour le faire ? Peut-être que c'est en fin de saison qu'aura fait le faire pour voir dans quel état d'esprit ils seront. Mais c'était ça notre volonté. Et David Girandière, pour compléter Pierre-Louis, a entraîné le club de Belbeil à un niveau qui était régional ou départemental, c'est ce qu'il raconte. C'est intéressant de voir son évolution aussi, quoi. Voilà.
Ouais, parce que justement, hein, vraiment, à la lecture, moi, c'est un peu ce qui m'a marqué d'habitude quand on a des interviews de sportifs et a fortiori d'entraîneurs. Voilà, il y a toujours cet esprit de compétition qu'ils gardent. Hein, ils sont vraiment quand même omnubilés par ça. Là, on a senti vraiment l'importance de l'humain. Stéphane Moulin qui rappelle, par exemple, que non, tous ces joueurs ne vont pas vivre éternellement du football et qu'eux aussi vont avoir besoin de formation, etc. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, je trouve, dans un article a priori dédié au sport. Et justement, quand on voit la une, on se dit « bon, ça va être un truc de sport ». Et finalement, quand on lit, on a plus l'impression de lire quelque chose de l'ordre de Sopress, on va dire, que de l'ordre de l'équipe.
Bon, après les critiques, les compliments, donc merci. Merci si c'est ça qui a été ressenti. Mais c'était, encore une fois, c'était le but.
Quand on est anglais pour, quoi.
Quand on mène une interview, c'est nous qui la construisons. C'est le journaliste qui oriente l'interview, qui pose des questions. Donc, il n'y a pas eu de découpage. C'est bien cet entretien-là qu'on voulait faire avec, je le redis, un intérêt qui est très relatif pour les résultats et pour la compétition elle-même. Voilà, sur le site d'Angemag, on a une chronique les lendemains de match jusqu'au, mais on ne revient pas sur le match lui-même. Enfin, l'auteur ne revient pas vraiment dessus. On est plus sur un chemin de traverse et c'est plus ça qui nous intéresse, quoi. Voilà.
Oui. Ceci dit, même si on prépare bien son interview, des fois on peut avoir des mauvaises surprises.
Bien sûr,
on n'est pas exclu.
C'est vrai.
Je voulais vous demander, Stéphane Moulin parle à un moment de la fine frontière qu'il y a en fait entre son travail et le plaisir. Finalement, est-ce que pour les journalistes, c'est la même frontière ? Est-ce que c'est difficile de faire la part des choses à un moment entre le plaisir, la volonté qu'on a d'être dans le journalisme et de faire la part des choses avec tout ce qui est vraiment de l'ordre purement professionnel ?
Alors si la question, je la reformule, c'est est-ce que quand on rentre chez soi, on arrive à refermer la porte de la journée et à ne plus penser au sujet, je vous dis non, c'est pas possible. Donc effectivement, la frontière, elle est extrêmement fine, quoi. si, pour parler de mon cas personnel, avec le lancement de cette aventure Angemag il y a 3 ans, un emploi du temps chronophage, moi j'ai pas encore complètement trouvé la façon de cloisonner les choses et de très très bien se protéger, quoi. Donc oui, je pense que pour tout métier de passion, mais pour eux, c'est encore pire, j'ai l'impression, parce que moi je rentre chez moi, je regarde pas non plus ITV ou BFM en boucle. Faut quand même se sevrer de temps en temps, alors qu'eux, apparemment, regardent les matchs à tour de bras. David Girondière nous apprend qu'il ne dort que 5 heures par nuit parce qu'il se lève pour faire des plans tactiques et prendre des notes. Waouh.
Bon. Vous en êtes pas encore là ?
Non, on n'en est pas là, heureusement.
Thibaut.
Oui, il y a une question que, alors, soit vous n'avez pas posée, soit elle n'a pas été publiée, mais on l'aurait bien posé la question, nous, de savoir pourquoi il y a autant d'hommes pour coacher les équipes féminines et au final, si peu de femmes pour coacher les équipes masculines.
Très bonne question, on n'a pas posée.
C'est vrai. Tant qu'à partir sur l'humain, autant partir là-dessus. Nous, on s'est posé la question, finalement.
C'est complètement vrai. De toute façon, peut-être parce qu'il n'y avait que 2 hommes à les interviewer, ça doit être pour ça.
Donc, c'était une discussion entre hommes. On se fait une petite pause, on revient dans 3 minutes.
Oh,
Et vous êtes toujours sur campus, vous êtes toujours dans le sous-marin. Et bah, tout de suite, on va continuer à parler un petit peu de sport, mais cette fois-ci avec Hugo. Alors, avant de continuer de décrypter le 32e numéro d'Angers Mag, Hugo, aujourd'hui, tu vas nous parler de sport, mais comme d'habitude, hein, avec ton regard à toi. Tu as rencontré Aurore Patrice à Jambouin, hein, c'était vendredi dernier, on peut le dire. Elle est cadreuse et tu vas donc nous faire découvrir à travers son témoignage la vie et la profession de ceux qui nous offrent les belles images de sport.
Les cadreurs, le secret du détail. Et oui, Pierre-Louis, j'ai eu la chance de rencontrer Aurore vendredi dernier lors du match du SCO contre Rennes. Aurore est une cadreuse intermittente du spectacle. Être intermittente du spectacle, c'est travailler avec des contrats à la journée, avec un emploi du temps régi par les demandes des exploitants. Les exploitants étant des entreprises qui vont exploiter les images sportives.
On m'appelle pour des contrats un petit peu au coup par coup. Donc moi, je travaille surtout sur des contrats courts, c'est-à-dire à la journée. Voilà, mais quelquefois, donc évidemment, j'enchaîne les différents contrats.
C'est donc avec une très grande flexibilité, une très grande précarité que les cadreurs vont travailler pour les exploitants. Le double sens est donc ici très fort. Les exploitants, ce sont eux qui vont faire appel directement aux cadreurs afin de filmer les rencontres et les événements sportifs. Les cadreurs sont donc totalement dépendants des demandes des exploitants. Les exploitants vont ensuite revendre leurs images aux diffuseurs du match. Les cadreurs ne travaillent donc que très peu avec les chaînes et les journalistes, comme elle nous l'explique très bien.
Alors, souvent, les journalistes, en termes de cadre, ne demandent pas trop.
Donc, en fait, les journalistes, ils sont plus directement en contact avec les réalisateurs plutôt qu'avec les cadreurs, en fait.
C'est plus ça. C'est-à-dire que, bon, on fait des interviews avec eux. Mais c'est vrai qu'ils n'interviennent pas trop sur le plan technique. Hein. Voilà, bon,
ils vont pas vous demander. C'est pas eux qui vont directement venir vous voir en vous demandant de faire un plan serré sur tel ou tel joueur. Ce sera plutôt le réalisateur en fonction des demandes des journalistes.
C'est ça. Ouais. Quelque part, les journalistes nous en parlent, mais en règle générale, c'est le réalisateur qui nous demande.
Cependant, malgré la non-communication entre cadreurs et journalistes, les cadreurs sont de plus en plus spécialisés dans leur domaine. Il peut y avoir des cadreurs pour des plans larges, pour des hors-jeux, des tactiques de jeu, mais aussi des plans serrés pour avoir une vision précise du porteur de balle, pouvoir voir les fautes, les gestes techniques, pour proposer des ralentis. Il y a aussi des cadreurs au bord du terrain qui connaissent bien les personnalités des joueurs, leurs potentiels déplacements, agissements, bref, des cadreurs spécialisés dans leur sport ou même dans différentes techniques de cadrage lors d'un match. Tous ces différents plans prévus sont là pour pouvoir proposer un maximum de services et de possibilités aux téléspectateurs afin de le fidéliser et de lui permettre de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain, d'avoir plus de détails. Cependant, tout cela est évidemment soumis aux lois du financement.
C'est beaucoup quand même lié en fonction des moyens. C'est-à-dire que plus il y a de la notoriété, plus il y a de la diffusion et il y aura des spectateurs à regarder, plus il y aura d'argent alloué à ça et plus il y aura de moyens de mise. Par exemple, sur les gros matchs de foot, donc il peut y avoir beaucoup de caméras, effectivement, pour pouvoir fournir le plus de ralentis possible, parce que c'est le ralenti qui va apporter, qui va faire vraiment la différence, qui va apporter des détails. Le ralenti permet aussi de dynamiser un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quelquefois, vous voyez, il y a des arrêts de jeu, et pendant ce temps-là, on va montrer des ralentis, ça permet de dynamiser beaucoup ce qui se passe à la télé, quoi.
Et oui, des détails, c'est ce qui intéresse les téléspectateurs. Le chuchotement de Ronaldo à l'oreille de Laurent Blanc, la main de Thierry Henry, la fameuse main de Dieu de Maradona. Mais comment capter ces détails quand on est perché derrière des caméras, perdu au fond des tribunes, posté au point de corner? Quelles sont les qualités et les moyens que les cadreurs doivent mettre en œuvre lors d'un match afin de pouvoir tout filmer?
Il faut être très réactif, il faut être très concentré. C'est bien à l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un casque sur les oreilles, on entend la régie, aussi bien à l'écoute de ce qui se passe, de ce qu'on nous demande, et en même temps, voilà, on observe le jeu, ce qui se passe autour de soi, aussi bien l'ambiance. Il faut être très attentif, en fait.
Les cadreurs sportifs doivent être en effet très attentifs, tant sur le jeu et l'événement en lui-même, que sur la manière dont ils le couvrent. Les demandes peuvent parfois être ultra précises, notamment en hippisme, où les directeurs de course doivent pouvoir vérifier à chaque instant que les chevaux ne font pas de faute.
Des plans très calibrés à faire, parce qu'on travaille pour des commissaires qui doivent vérifier
oui, c'est ça, parce
qu'il n'y a pas de faute pour les chevaux, et du coup, il faut pouvoir le voir. Et donc, pour ça, il faut que le plan doit faire une certaine valeur et pas une autre, et on doit suivre, enfin, voilà.
Les cadreurs sont les personnes qui nous donnent à voir tout ce que nous voyons à travers la télévision. Les beaux comme les mauvais moments, ils en sont tous témoins. Mais nous n'en entendons que très peu parler. Sans eux, il n'y aurait pas d'image. Et pourtant, la précarité de leurs conditions et la flexibilité de leur travail sont des éléments qui rythment leur profession. Ils sont les détails de l'image. Merci beaucoup à Aurore Patrice pour sa disponibilité et la qualité de son témoignage, ainsi qu'à Pierre-Louis qui m'a aidé en catastrophe samedi à pouvoir enregistrer cette conversation téléphonique.
Mais de rien, mon cher Hugo, c'était un plaisir de revenir un samedi soir à la radio. Voilà, Yves Boiteau, ça vous fait réagir, cette chronique?
Oui, je trouvais ça très intéressant. Ouais, parce que on a à la fois la, quand même la, le sérieux, le professionnalisme de cette jeune femme, puis à la fois le revers de la médaille, c'est sa précarité qui est propre à, faut pas aller chercher bien loin,
hein,
qui est propre à l'intermittence, qui est extrêmement omniprésente dans le monde, dans le monde télévisuel aujourd'hui. Ouais.
Tout de suite, on continue de décrypter le dernier Angémag. Alors, nous n'avons pas encore parlé de la probable nouvelle chaîne de télé Angesco.
Quelle
télé.
Transition extraordinaire.
Et voilà, ouais. Transition. Voilà, Jean Boin, tout ça, prévu. Cadreur, voilà. C'était évidemment prévu. Donc la première question, assez simple, pourquoi avoir choisi ce sujet à Angémag, de le mettre en avant?
Parce qu'il est très intéressant. Voilà, il ne faut jamais oublier qu'Angers Télé est né d'une volonté politique, à l'époque de Frédéric Béat, lorsqu'il était devenu maire d'Angers. Donc Frédéric Béat, maire PS d'Angers, qui a été battu au dernier municipal par Christophe Béchu. Donc c'était une volonté politique de créer une télévision qui, on va dire, je la fais vite, mette en valeur le territoire, parle du territoire. Donc, l'avenir d'une décision qui est choisie par une volonté politique, eh ben oui, ça nous intéresse forcément.
Forcément. La question des suppressions de postes, ou du moins de la diminution de la masse salariale, hein, c'est une des questions évoquées dans l'article. Pour être politiquement correct, on va dire diminution de masse salariale, ça vous touche personnellement en tant que journaliste? Est-ce qu'il y a un soutien justement avec les collègues, ou finalement, bah, bon, c'est la vie d'une télé ou d'un média?
C'est les deux. Bien sûr que mais je vais pas m'apitoyer non plus sur le sort, parce que je pense que ça fait rien de bien, mais on les connaît, ce sont nos voisins, nous sommes dans les mêmes locaux quand j'étais là, donc on voit très bien qui pourra être touché par ces licenciements lorsqu'ils interviendront, donc forcément, oui, touché. Après, c'est voilà, le monde des médias, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, n'échappe pas au chômage et au problème de l'emploi. Il n'y a pas de raison que les journalistes soient épargnés par ce qui touche tous les autres corps de métier, quoi.
Thibaut,
est-ce que c'était pas dommage que il y avait un projet porté par des journalistes qui voulaient reprendre la télé? Est-ce que c'est pas dommage qu'il soit passé à la trappe au profit d'un projet porté par celui qui est l'actionnaire principal?
Alors, d'un point de vue, si c'est le journaliste qui vous répond, je dis oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est une vraie interrogation, hein. C'est pour ça qu'on s'y intéresse et qu'il faut le remettre en perspective. On passe d'une télévision qui avait une ambition territoriale à une télévision qui appartient à un club de football. Voilà. Donc, à quoi cela ressemblera? Il y a apparemment des gages qui sont pris pour continuer, mais moi j'ai le sentiment que ce sera pendant un temps donné à couvrir un peu l'actualité du territoire. Mais est-ce que c'est à une télé qui appartient à un club de football professionnel de couvrir l'actualité du territoire angevin? Question. Moi, je ne le crois pas.
Antoine?
Et toujours par rapport à ça, vous qui connaissez bien le média local, vu que vous en êtes un aussi, mais sur un créneau gratuit, c'est de la presse, on se rappelle quand même des épisodes un peu, là, un peu ténébreux d'Angers 7, Nantes 7. La pérennité des médias locaux, c'est quand même quelque chose d'une question qui revient très souvent avec les radios locales qui s'en sortent mal, mine de rien. Est-ce que le foot, c'est le seul sauveur des médias? Est-ce qu'il y a uniquement des choses privées qui peuvent impacter comme ça des médias qui peuvent s'en sortir? À quel prix? Si c'est pour avoir du foot à gogo, comme c'est déjà le cas en ce moment sur Angers Télé, si c'est pour virer tous les journalistes?
Je pense qu'il faut avoir deux approches par rapport à ce qui se passe en GT. Une approche journalistique, c'est celle que je viens de donner. Moi, dans l'absolu, je préférerais une télévision territoriale, enfin une télévision qui parle du territoire et qui fasse bien son boulot. Par contre, quand on adopte un raisonnement économique, ces télévisions-là, elles ne sont pas rentables, mais quel que soit le territoire où on est en France. C'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a aucune télévision locale qui sur un modèle, sur quelques modèles que soit véritablement rentable. Et sans l'intervention publique, qui plus est, c'est même pas possible de... Alors à partir du moment, il faut replacer les choses, Christophe Béchu, quand il était président du conseil départemental et que ce projet de télé locale a été lancé, il a refusé de verser le moindre centime. Il ne voulait pas soutenir une télé, on l'imagine, lancée par le maire socialiste qui allait être son adversaire ensuite. il devient maire d'Angers, il faut qu'il reste un petit peu cohérent avec lui-même. Il n'a pas envie, je pense sincèrement qu'il n'avait pas envie non plus de continuer à le financer. Ils ont mis en avant cet argument financier en premier, la mairie d'Angers. Ils font une économie, ils mettaient 700 000 euros, ville et agglo, ensemble. Ils ne mettront plus que 300 000. Et moi, la question qu'il faut se poser, c'est dans un an, est-ce qu'ils mettront encore un centime? Je pense, sans prédire l'avenir, que le souhait de Saïd Chaban, il le dit d'ailleurs très bien dans l'interview qui n'est pas ici, mais sur notre site web, il veut être propriétaire à 100%. C'est pas le genre de businessman à vouloir avoir des gens qui soient à côté de lui pour lui dire quoi faire. Bon, on verra dans un an ce qu'il en est, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y ait quasiment plus un centime, si jamais ça marche, de la collectivité. Et je demande, après, je cherche à savoir sur quel canal diffusera cette télévision.
Alors Yves Boiteau, je vous pose la question d'une manière un peu plus globale. Est-ce que, justement, de manière générale, d'avoir souvent à la tête des médias des gros actionnaires ou des hommes d'affaires et non des journalistes, c'est un énorme problème qu'on a?
Ah ben, je crois que ça peut l'être, ça c'est une évidence. Ça l'a sans doute jamais autant été aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on a pu connaître, des patrons avec une mentalité un petit peu vertueuse, attachée à l'information, mais la réalité nous montre aussi des choses différentes. Donc, mais faut pas en faire le reproche à Saïd Chaban, parce que l'honnêteté qu'on peut lui reconnaître, c'est d'annoncer la couleur. Il veut faire Angersco Télé, il veut pas faire Angers Télé, hein. Il veut faire une télévision principalement pour son club. La question, c'est plutôt de se dire quels sont aujourd'hui les modèles économiques qui permettent de faire vivre une information qu'on estime indépendante et de qualité. Et à cette question-là, elle est loin d'être simple. Dans le monde dans lequel on vit, avec l'émergence d'Internet qui a offert énormément de possibilités, mais qui a aussi montré parfois ses limites. Donc la question, elle est plutôt de cet ordre-là. C'est qu'est-ce qui, à une échelle, un échelon local comme un échelon national, il y avait les rencontres de la presse indépendante en ligne vendredi dernier à Paris, où cette question était au cœur de cette journée à laquelle Yannick Sourisseau, le directeur d'application d'Angemag, a participé. C'est l'indépendance de la presse. Comment on assure les garanties, et c'est quelque chose qui est tout sauf simple et pour lequel il y a très peu de modèles, parce qu'il y a malgré tout besoin d'argent. Vous le savez très bien, à Radio Campus comme chez nous, pour produire une information de qualité, ça demande des moyens. Comment on va chercher ces moyens? Sinon, en allant aussi frapper, il y a deux solutions. Soit on va frapper à la porte de ceux qui en ont, donc souvent effectivement des actionnaires qui peuvent avoir un intérêt privé. Soit on a la grande chance comme Mediapart d'avoir un lectorat qui est extrêmement fidèle et investi dans la ligne éditoriale du journal et qui va vous soutenir en acceptant de payer le prix. Voilà, mais il n'y a pas trois Mediapart en France.
Oui, finalement une réflexion très politique, et là vous me voyez venir avec mes gros sabots pour faire une transition sur les régionales.
Mais je sais pas si j'ai répondu à votre question.
Il s'en contentera, en tout cas, puisqu'il faut qu'on avance dans le débat.
Nous n'avons qu'une heure.
Voilà, nous n'avons qu'une heure. On va passer au régional. Alors, avant de rentrer dans le corps de l'article, dans l'édito, la rédaction pique un petit coup de gueule, hein, on va dire, contre les autres médias qui finalement ont un peu exclu le débat au profit d'articles sur la montée du Front National, puisque c'est ça l'actualité chaude. Est-ce que vous avez l'impression que le débat public perd de son poids et de son sens finalement actuellement?
Mais en tout cas, moi, je ne peux pas aborder les élections régionales sans me poser d'abord la question, est-ce que les gens à qui on va s'adresser savent ce que c'est un conseiller régional? Et la réalité, c'est quoi? C'est que vous allez dans la rue et vous faites un micro-trottoir pour demander aux Angevins s'ils savent à quoi sert le conseiller régional. Et ben, je pense qu'il y en aura 8 sur 10, voire 9 sur 10, qui ne sauront pas à quoi il sert. Ou si, ils citeront peut-être les TER ou les lycées. Voilà, on va dire les deux compétences qui sont peut-être le mieux identifiées de la région. Donc, la nécessité pour les journalistes de rappeler à quoi servent les collectivités locales, surtout une collectivité locale qui est très jeune, on en a rappelé l'historique, c'est vraiment pas vieux le conseil régional, mais c'est le béaba. Pour moi, c'est le béaba. Si on fait pas ce travail-là et qu'on rentre dans autre chose, alors on peut rentrer dans autre chose, mais il faut d'abord faire ce travail-là. Donc il y a une nécessité pédagogique, oui, de rappeler ce que c'est que le conseil régional. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça va venir 2 semaines avant les élections. C'est ça ce qui va se passer, c'est qu'on aura des papiers, voilà, les compétences, patati patata. Ça commence peut-être à venir quand même dans certains médias, mais effectivement, on est quand même sur l'écume aujourd'hui chez beaucoup de médias, que ce soit au niveau national ou au niveau local.
Et d'ailleurs, vous le rappelez très bien dans ce qu'on pourrait appeler une espèce d'intro, en fait, au dossier, vous rappelez les compétences, c'est d'ailleurs assez bien fait. Vous présentez ensuite les 9 candidats. Est-ce que vous les avez tous rencontrés ou eus par téléphone ou pas du tout ?
Non, on les a pas rencontrés. On les a eus par téléphone, la plupart, et puis même par mail pour une bonne partie d'entre eux. Ça, c'est une question de moyens. C'est que on avait fait le choix, nous, à Angémac, de ne couvrir aucune conférence de presse pour le moment liée au régional. On reçoit 2 à 3 communiqués par jour de Christophe Clergeau, 2 à 3 communiqués de Bruno Retailleau, 2 à 3 communiqués de Pascal Gana. C'est juste pas possible de jouer ce jeu-là de la reprise de communiqués. Donc on préfère s'abstenir, essayer de bien travailler sur un dossier comme celui-ci. Et on n'a pas pu les rencontrer, bien qu'une partie d'entre eux soit venue. Alors on a couvert le lancement de la campagne de Christophe Clergeau au Poncé, celui de Bruno Retailleau à Vrier. Je suis allé voir Marine Le Pen la semaine dernière à Andard. Voilà. Mais on peut pas tout faire. Donc on a travaillé avec eux. On les a laissés rédiger leurs propositions dans chaque page thématique eux-mêmes. On leur a donné le cadre. Voilà, vous avez tant de signes. À vous de gérer cet emplacement-là pour résumer vos propositions.
Ben c'est parfait, vous répondez à une de mes questions. Je me demandais comment vous aviez fait. Et ben voilà, c'est tout simple. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Pourquoi avoir choisi ces 8 thèmes particuliers ? Je vais les rappeler tout de suite. Donc, leur ambition pour la région, la réforme territoriale, l'éducation, l'apprentissage, les transports et déplacements, Notre-Dame-des-Landes, la politique fiscale, le développement économique et l'aménagement du territoire. Pourquoi avoir choisi ces thèmes-là et comment vous les avez choisis ? Est-ce que ça s'est passé en conférence de rédac ? Est-ce qu'il y a eu aussi des discussions, par exemple, avec des citoyens, je ne sais pas,
ou
en regardant leurs différents programmes ?
Non, pas du tout. On est parti, à la limite, on peut presque résumer ça à ça, du budget de la région. On regarde ce que la région dépense, c'est fléché vers quelles compétences, et on est parti principalement sur ces compétences-là, en y ajoutant...
Allez-y.
Y ajoutant deux choses, Notre-Dame-des-Landes, voilà, parce que c'est une vraie question qui est au cœur de la campagne. L'ambition pour la région, c'est un petit peu la profession de foi, on va dire, du candidat. Et puis la réforme territoriale, parce que quand bien même elle est en apparence terminée d'un point de vue législatif, il ne faut pas oublier qu'il y a une espèce d'alinéa qui a été ajouté au texte de loi pour offrir la possibilité éventuellement de réouvrir la discussion du rapprochement avec la Bretagne à un moment donné. Donc, chez certains candidats, et d'ailleurs, il y a une des listes qui ne se présente que pour ça, hein, que pour défendre le rapprochement avec la Bretagne, enfin de la Loire-Atlantique avec la Bretagne, ça nous paraissait intéressant de savoir dans quel état d'esprit ils étaient.
Thibault,
est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement à la rédaction de l'article et au contact de ces candidats ?
Non, sincèrement, rien de particulier. La surprise, c'est peut-être... Non, il n'y a pas de véritable surprise. Ce qui est évident, c'est que cette élection, elle est vachement importante parce que la région se voit renforcer son rôle par la réforme territoriale. C'est ce qui est assez important de dire. Et surtout pour le développement économique. Demain, les zones d'activité économique qu'on voit ici et là en Maine-et-Loire le long des routes, elles seront soutenues directement, l'investissement économique, par la région au détriment actuellement du département. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Pour le reste, il n'y a pas une énorme surprise. Ce qui marque peut-être fortement les propositions de Bruno Retailleau pour les Républicains, c'est le soutien à l'apprentissage. On sent qu'il y a une volonté de remettre au goût du jour des formations qui seraient, selon eux, plus facilement pourvoyeuses d'emploi. Mais autrement, il n'y a rien qui nous a extrêmement marqué, quoi, non ?
Et donc, vous l'avez dit, ces élections sont quand même très, très importantes. Est-ce que vous avez l'impression que ça va faire un flop, que vous allez qu'on va voir un taux d'abstention très important ?
Bah c'est ma crainte. C'est ouais. ma crainte, mais j'arrive pas à lire dans le marc de café par rapport à ça. J'espère qu'on fera pas pire qu'en 2010, parce qu'en 2010, il faut se souvenir que Jacques Auxiette, donc qui est l'actuel président de région, était élu au deuxième tour avec 47% des suffrages exprimés. À l'époque, c'était contre Christophe Béchu, hein, le maire d'Angers, qui était candidat. Donc moi, j'ai une crainte que l'abstention soit forte, et qui dit abstention forte, voilà, dit risque.
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On passe tout de suite au dernier article que l'on va décrypter avec vous, Yves Boiteau. Thibaut, à toi l'honneur.
Alors l'article sur les cafés-concerts commence par le constat qu'après l'euphorie des années 90, le soufflet était retombé. Pour nos auditeurs les plus jeunes, les années 2000 à Angers, c'était vraiment plan-plan ?
C'était pas plan-plan, non, mais c'était moins dynamique qu'aujourd'hui, je pense.
Alors, au moment où vous sortez ce numéro d'Angers Mag avec un article qui tend plutôt à saluer les initiatives pour redorer le blason de la culture et des nuits angevines, la mairie pense à faire fermer quelques terrasses pour diminuer les nuisances sonores suite à des plaintes de voisins. Vous avez creusé de ce côté-là ou vous ne vouliez tout simplement pas angler là-dessus ou c'était pas encore sorti ?
Non, on n'a pas creusé. On n'a pas creusé. Et puis, très honnêtement, dans la façon d'aborder les choses, on n'a pas pris en compte cet élément-là, quoi. Voilà, on a été peut-être happé pour le coup par la dynamique apparente des cafés-concerts, sans mesurer les incidences que ça aurait éventuellement sur leur fonctionnement. Mais vous voyez, au contact de tous ces gérants de cafés-concerts, on n'a pas eu de retour non plus. Donc voilà.
C'est que jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien.
Il n'y a que les étudiants qu'on embête le soir à 22h quand ils font du bruit.
Autre sujet.
Thibaut. Alors oui, il y a également un encadré sur le Festival Culture Barbare. C'est un temps fort pour vous dans l'année, on vous y verra pour couvrir l'événement.
Je ne sais pas si on le couvrira, c'est pas sûr. C'est encore une question de moyens. Par contre, on l'avait déjà annoncé l'année dernière, bien relayé, bien mis en valeur, parce que voilà, ça se joue aussi là, la vie culturelle angevine. Et c'est un peu le point d'appui pour nous, parce que la dynamique des cafés-concerts, on voulait la traiter depuis très longtemps. Après, il se trouve que ce festival est fin novembre, donc c'était une bonne occasion.
Et vous, personnellement, vous êtes friand de ce genre de concert, de soirée ?
Ah oui, mais comme je ne vis pas beaucoup sur Angers, c'est pas forcément ici que ça se passe, quoi. Voilà.
Très bien. Alors, juste une dernière question. La question, en fait, que soulève et à laquelle répond un peu l'article, c'est de savoir s'il y a un renouveau sur le plan, justement, des cafés-concerts ou si c'est simplement une nouveauté. Pour vous, c'est quoi la réponse ?
Je fais plutôt confiance à Christophe Davy, le patron de Radical Productions, qui parle, lui, de nouveauté plutôt que de renouveau. Parce qu'on a vite fait de réécrire l'histoire et de se dire avant, c'était mieux. C'est pour ça, par rapport à la question sur les années 2000. Là, il y a une vraie nouveauté qui est purement mathématique. C'est qu'avoir trois cafés-concerts à Angers aussi dynamique, avec une programmation régulière, une vraie stratégie. Non, ça, je pense que ça ne s'est pas vu, ça s'est pas vu depuis longtemps. Il peut y avoir des cafés-concerts qui faisaient des cafés-concerts ponctuellement, mais avec cette ambition-là, ça, c'est vraiment nouveau.
Allez, tout de suite, le cabinet des curiosités d'Antoine.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors Antoine, au programme de ton cabinet des curiosités, Agora, les trans musicales de Rennes et la violence à la sauce nantaise.
Et oui, un beau programme, ce soir on ne parlera ni politique ni fromage, ça changera. Mais avant de passer aux choses sérieuses ce week-end, donc vous l'avez sans doute vu sur 9557 panneaux de la ville d'Angers, il y avait l'Agora angevine, c'était donc un grand forum de la dynamique vie associative de la région. Il est vrai que la douceur y était, mais nous pouvons vous le confirmer avec Pierre-Louis d'ailleurs, mais aussi moult associations fort respectables de leur état, je pense aux protections animalières, à l'aide aux réfugiés, des choses comme ça, du sport, de la culture, etc. etc. et qui étaient heureuses de pouvoir donner de la voix aux citoyens arpentant cette susnommée Agora. Mais comme cette dernière porte, la démocratie à cœur et à cri, il y avait forcément quelques stands à forte teneur odorante, je pense notamment à l'église évangélique, quelques stands de remise en question des sexualités, tout est déviant, ma bonne dame, en 2015, vous pensez bien. J'en passe, et des meilleurs, et tout cela sous couvert d'une carapace bien peu résistante au débat et un ressenti olfactif de relents de pensée qui volaient bien bas.
Musique maintenant et direction la Bretagne.
Et oui, plus précisément à Rennes, où du 2 au 6 décembre, non pas septembre, la musique sera Rennes, 37e Transmusique. Ça a été facile. 37e Transmusical, ces rencontres où se séduisent guitare, boîte à rythme, son électronique et paroles fortes. C'est aussi là-bas que vous avez pu profiter de Noir Désir, Nirvana, Lenny Kravitz, Björk, LCD Sound System, David Bowie ou encore Justice. Et cette année, toujours des concerts de 4h de l'après-midi à 6h du matin, en concerto avec les bars en trance, le off qui se passe en ville. Heur, Apollonia, Fatrotronic, Jacques et même François 1er, Royal au bar. Une programmation toujours aussi éclectique, exigeante, mais quand même très accessible. Car il y a quand même entre 60 000 et 80 000 personnes qui s'y rendent chaque année, donc pourquoi pas vous ? Toutes les infos, la prog, les mémoires et les infos pratiques sur le site lestrans.com en espérant bien vous y croiser cette année.
Allez, moi joyeux et ça se passe du côté de Nantes.
Et oui, c'était ce samedi vers minuit à Nantes, deux cocktails Molotov ont été jetés dans un squat occupé par 50 migrants africains. pas de blessés, mais des condamnations unanimes. La mairesse de la ville parle d'une, je cite, « agression inqualifiable » quand le préfet de région Pays de la Loire évoque, je cite, « un acte intolérable ». Un des occupants a déclaré à Ouest France que « celui qui a fait ça, il a voulu nous tuer ». Début d'incendie, pas de blessés, sauf au moral, pensez donc. Après toutes les souffrances qu'ils ont connues, ces migrants, comme les autres d'ailleurs, ils ont un vil vécu, ils avancent comme ils le peuvent, alors que certains commentaires haineux pleuvent sur les internets mondiaux. Et même dans la vie réelle, c'est malheureux. L'enquête est lancée, ce coup-ci c'est à Nantes, demain ce sera ailleurs. À croire que ceux qui disent vouloir éradiquer la mauvaise herbe ne le soient, eux-mêmes la mauvaise herbe. Bien malin qu'ils seront quand le cocktail se retournera dans leur cocon. Vous savez, la tolérance, c'est aussi l'un des principes des agoras, comme quoi parfois il faut savoir prendre racine sur le passé pour mieux progresser vers l'avenir, pour que la vie soit une fête. En transe. Bonne soirée, bonne semaine.
Oh, quelle conclusion. Merci Antoine. Tout de suite, c'est l'heure de la bulle sonore. Et c'est une fois de plus l'excellente émission de Joe Bamboo Station qui est à l'honneur.
Yes, 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 les mouettes. Vous êtes bien sur 103 FM, Radio Campus Angers. Et c'est bien Bamboo Station, votre émission reggae tout lundi soir entre 11h et minuit qui débute. Alors, on va commencer tout de suite par un groupe anthologique, trio vocal magique qui nous vient de la Jamaïque. Groupe formé en 1968. Voilà, trio vocal avec ses petites voix d'ange, j'ai nommé les Abyssinians. Donc, j'ai choisi de vous poser un morceau de leur premier album qui est sorti en 1976 et qui s'intitule Satamasagana. Je vous ai choisi le morceau à Bendigo. C'est parti, Abyssinians à Bendigo, yes!
Bamboo Station, une émission que vous pouvez retrouver tous les lundis de 23h à minuit. Avant de se quitter, j'en profite pour vous signaler que nous avons 10 places à vous faire gagner pour le concert de l'ONPL jeudi prochain. Et pour cela, il vous suffit d'envoyer vos coordonnées à l'adresse suivante, communication@radiocampusangers.com. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale Angers Mag. Merci Yves Boiteau.
Merci.
Et Yves Boiteau que vous pouvez lire hein, évidemment dans Angers Mag et sur angersmag.info. Merci à Thibaut, Hugo et Antoine de votre participation active à cette émission.
For pleasure.
Merci à toi Pierre-Louis.
See you tomorrow.
On remercie chaleureusement Quentin qui était à la technique de cette émission et Étienne à la programmation. On se retrouve demain, même heure, même fréquence pour un nouveau sous-marin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.